Philippe Labrot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cinéaste, romancier, une carrière hors du commun. Vous avez travaillé à France Soir, à Europe 1, vous avez présenté le JD d'Antenne 2, vous avez été 15 ans le patron d'RTL, vous avez écrit des chansons pour Johnny, vous avez réalisé 7 films dont L'Héritier avec Belmondo, La Crime, Rive droite, Rive gauche, je peux pas tout dire. Vous avez écrit des livres qui ont vendu quelquefois au-delà du million d'exemplaires, Des Feux mal éteints, L'Étudiant étranger, 15 ans, un début à Paris, Tomber 7 fois, se relever 8 dans un autre genre, et vous présentez sur CNews l'émission Langue de bois s'abstenir. Et là, vous publiez un roman, Ma mère, c'est inconnu. Autant qu'un roman, c'est une enquête, vous avez travaillé pour faire ce livre.
Oui, forcément, puisque ma mère cachait tout, presque, de son destin, d'où elle venait, puisque c'était une femme née de père inconnu, soi-disant. Elle savait très bien qui était le père, mais elle ne voulait pas nous le dire. Et donc, j'ai été obligé d'enquêter pour raconter sa vie.
Elle ne voulait pas vous le dire jusqu'à quel moment? Elle ne vous l'a jamais dit de sa vie?
Non, enfin, on ne savait rien. On savait simplement qu'on n'avait ni grand-père, ni grand-mère. Et on n'a rien su d'où venait cette femme à 50% de sang polonais.
Non mais là c'est dingue, on est dans la dénégation totale. On l'appelait Netka, son vrai prénom c'était Henriette. Son père, on va apprendre tout à l'heure qui il était, avait refusé de la reconnaître à la naissance. Mais le plus fou, c'est qu'elle vous disait ne pas se souvenir exactement de son nom de famille. Ce qui paraît aberrant.
Non mais là je crois qu'elle nous trompait.
Ah bah oui.
Pour nous mettre sur une fausse piste ou pour ne pas qu'on découvre la vérité, qui n'était pas non plus honteuse ni rien, simplement.
Ah bah au contraire.
Au contraire, mais elle éprouvait la honte d'une jeune femme qui n'a pas été reconnue.
C'était une enfant naturelle, illégitime, mais pas de n'importe qui. Vous avez enquêté et vous avez découvert que son père, votre grand-père, était...
un comte polonais qui s'appelait Henryk de Slizen et qui possédait la moitié de la Biélorussie et qui rencontre une jeune institutrice française née d'une fille de ferme elle-même pas reconnue et dont la mère aussi n'avait pas été reconnue, ça s'appelle une filière. Et la rencontre entre cette jeune institutrice et ce comte polonais a lieu, nous ne savons où, mais toujours est-il que c'est une vraie rencontre puisqu'ils font deux enfants illégitimes, puisque le polonais, il est marié, il a 5 enfants.
Et alors c'est à vous de raconter la fin tragique de son père à elle.
Oui, mon grand-père est mort assassiné par les bolcheviks, enterré vivant, sur son cheval.
Ah, sur son cheval?
Oui, selon la légende, parce que là encore, on n'est pas là pour le voir.
Le truc le plus fou, vous qui êtes journaliste depuis plus d'un demi-siècle, vous avez découvert que votre maman avait la carte de presse, qu'elle avait été journaliste, et elle vous disait rien.
Non, mais ça, c'est ce qui m'a le plus stupéfié, entre autres choses. Elle disparaît, nous partageons ce qui reste, et mes frères me disent, mais tu prends tous les papiers, les notes, les lettres, la correspondance, puisque tu écriras un jour l'histoire de maman. Et je fouille, et je trouve une petite carte bleue, avec écrit carte de presse, l'essor artistique, le nom de ce magazine qui depuis a forcément disparu, et je vois le beau visage de ma mère, et vous vous rendez compte, pendant 50 ans, je suis journaliste, jamais elle ne m'a dit, tu sais Philippe, moi aussi, jamais.
Alors vous avez aussi écrit, Philippe Labrot, un roman qui s'appelait « Tomber 7 fois, se relever 8 », dans lequel vous racontiez votre dépression. Et là, dans ce livre, on découvre que vous êtes fasciné par l'héritage génétique parce que vous dites peut-être que ma tendance à la dépression vient de mon héritage slave.
Forcément, oui.
Ça, forcément?
D'abord, je crois beaucoup à l'héritage génétique. Deuxièmement, effectivement, il existe ce que j'appelle la slavitude, c'est-à-dire un penchant, une tendance à la mélancolie.
Permettez-moi de sourire, mais donc quand on va en Pologne ou en Biélorussie, les gens sont mélancoliques tous?
Non, bien sûr que non. Mais dans le sang français, il existe aussi un certain nombre de tendances. Et dans le sang polonais, on le sait, c'est pas Chopin, par hasard, qui nous a écrit les plus belles et les plus tristes romances. Il existe, effectivement, une tendance à la mélancolie, à la tristesse. C'est très beau, la tristesse.
Dites donc, en parlant de dépression, vous avez rechuté en écrivant ce livre.
Effectivement. Alors, c'est pas forcément l'écriture même du livre qui m'a fait rechuter. Ça a aidé. Il y a un moment donné où je me suis rendu compte que je détestais ce que j'écrivais, que c'était pas bon. Et donc, le doute, avec un D majuscule qui s'est infiltré en moi, a ouvert la porte à la rechute.
Et quand vous faisiez du cinéma, vous étiez dans le doute, pareillement?
Non, j'étais dans la constante inquiétude, c'est pas le doute. Truffaut disait, un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui on pose 300 questions par jour.
Mais c'est rien à côté du fait de savoir si son scénario tient la route ou non.
Oui, non, mais ça, à la base, il y a d'abord, effectivement, il faut que le scénario soit en acier. Sinon, c'est pas la peine d'aller tourner, hein.
Ah, il y en a plein qui y vont comme ça. Ils disent, c'est pas grave, on rattrapera au montage.
Non, c'est comme ça qu'ils font des navets.
Philippe Labrot avec nous, on parlera de cinéma et d'autres choses. À tout à l'heure. Philippe Labrot avec nous, qui vient de publier Ma mère, c'est inconnu. C'est un récit qui sort chez Gallimard et qui est déjà classé dans les meilleures ventes. J'ai vu qu'il était entré directement 10e. Vous êtes journaliste, vous êtes cinéaste, vous êtes romancier. Vous présentez une fois par semaine sur la chaîne C8 l'émission Langue de bois s'abstenir. Vous avez aussi été président de la chaîne Direct 8, qui est devenue D8 puis C8. Vous êtes toujours vice-président ou c'est fini?
J'étais vice-président de directude, pas, jamais président. Président, c'était Vincent Bolloré, puis ensuite son fils Yannick. Il doit être vice-président de l'honneur de quelque chose.
Vous ne le savez pas?
Non. Vous savez, ce qui compte pour moi, c'est de faire cette émission, Langue de Bois s'abstenir, ouais, que j'aime beaucoup, qui en ce moment, évidemment, même si elle est programmée à 1h moins le quart du matin, reçoit énormément de spectateurs parce que la politique passionne.
Et vous avez le droit de faire ce que vous voulez? Mais ou est-ce que le CSA vous impose des quotas?
Ah, il y a des quotas, bien sûr, ah oui, partout. L'autre soir, mon rédacteur en chef, Ludovic Orsoni, me dit, vous savez, si vous mettez à parler de Fillon et de Macron, il faudra aussi parler de La Salle.
Cheminade. Et qu'est-ce que vous avez fait sur Cheminade, alors?
Mais j'ai mentionné son nom.
En faisant une phrase longue pour que
non,
ça dure?
Non, j'ai mentionné tous les candidats, voilà.
Ah oui, donc c'est pas le vrai l'égalité parfaite du temps de parole.
Bon, ça l'est jamais tout à fait.
Vous êtes le conseiller également de Vincent Bolloré.
Oui.
Comment vous avez vécu la crise à iTélé qui est devenue CNews?
Comme une grande difficulté. Une grande complexité, on n'a pas 5 heures devant nous, Philippe Vandel, vous et moi, pour que je vous explique à quel point ces choses-là sont complexes, difficiles. Un conseiller n'expose jamais au public ses conseils.
Ouais.
Donc j'ai vécu ça, comme tout le groupe d'ailleurs, comme un moment très difficile.
Parce que tout était parti de l'arrivée annoncée de Jean-Marc Morandini, contre qui une plainte était ouverte pour harcèlement sexuel et travail dissimulé, et on se dit, que diable est-il invité dans ce qui n'était pas une galère à l'époque?
Ben, quand il a été invité par Vincent Bolloré, c'était avant, ouais, que les scandales éclatent.
Mais une fois que le scandale éclate, pourquoi on ne dit pas, eh bien on le met de côté et on ne le voit plus à l'antenne?
Parce que Vincent Bolloré et ses équipes ont considéré que tant qu'il était présumé innocent, il avait tout à fait le droit de s'exprimer. Alors ils l'ont mis à l'antenne, ça a duré 8 jours, le résultat était médiocre, ils l'ont tous admis, et je crois Morandini le premier. Donc il s'est retiré et il est encore retiré, voilà.
Il sera à l'antenne à la rentrée?
Je n'ai aucune idée.
Non seulement CNews, qui devait être relancé, a pas rattrapé BFM TV, mais elle s'est même fait dépasser par LCI.
Alors attendez, mollo, hein.
Ah bon?
Attention, parce que les choses changent. Hein. Oui, BFM, de toute façon, est nettement en tête dans toutes les stations d'info, les télés d'info, et même arrive un soir d'élection politique, comme l'autre soir, à être la 3e chaîne nationale,
ouais,
après TF1 et France 2, ce qui est une performance inouïe qui ne sera donc pas égalée ni par LCI, ni par CNews. Mmh. En revanche, CNews fait des scores en ce moment qui dépassent ceux de LCI.
Ah oui, ouais.
Donc faites attention, tout ça c'est un combat, et moi je pense qu'il y a une progression de CNews.
Autre image qui a été un petit peu décriée, c'est l'arrivée, il n'y avait que des vieux pour dire les choses. Ont été rappelés Jean-Pierre Elkabbach, Marc Menant, Rachid Arabe, Patrick Poivre-d'Arvor, je ne suis absolument pas agiste, mais on a envie de voir peut-être des nouvelles têtes, des gars qui sont nés plus récemment.
Aussi... Bah oui et non, on a peut-être aussi envie d'entendre des gens qui ont de l'expérience, un savoir-faire. Les gens qui regardent et qui écoutent les grandes chaînes d'info n'ont pas tous 18 ans.
Alors, je vais parler de reconnaissance. Vous avez brillé dans le journalisme, dans la radio, la télé, le cinéma, la chanson, l'édition. Et vous dites, vous avez dit ça il y a quelques années, que ce qui vous manquait, c'est de ne pas avoir encore écrit le vrai bon livre, ni la vraie bonne chanson, ni tourné le vrai bon film. Est-ce que ce livre, c'est le vrai bon livre?
Écoutez, c'est à vous de le dire.
Non, mais c'est à vous, c'est vous qui
non,
vous jugez.
Non, mais non, je ne peux pas me juger. Moi, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais.
Donc, vous ne l'avez toujours pas fait. Vous aimeriez dire, comme Godard a fait À bout de souffle.
Mais je crois pas que quand il a fait À bout de souffle, Jean-Luc s'est réveillé le matin en disant « j'ai fait un chef-d'œuvre ». C'est les autres qui ont dit que c'était remarquable.
Pardon. Ah bah alors, j'ai compris, ce qui vous manque, c'est que quelqu'un ne vous dise pas « Philippe, t'as fait un chef-d'œuvre ».
Eh ben, les critiques actuelles, de Jérôme Garcin dans L'Obs et la Provence, jusqu'à Maurice Safran dans Challenge, jusqu'à Bruno Frappa dans La Croix, semblent dire que c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais que c'est un livre très réussi. Mais si vous voulez, je vais pas commencer à citer tous les éloges dont je suis pour l'instant l'objet.
Vous les avez tous cités, c'est tous vos copains alors?
Mais pas du tout.
Garcin, Frappa, vous les connaissez pas?
Ce sont des relations, ouais, amicales et professionnelles.
Est-ce qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas sur la place de Paris?
Je connais pas Emmanuel Macron. J'ai jamais rencontré. Voilà.
Philippe Labro avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Philippe Labro avec nous, écrivain, romancier. Quel métier vous n'avez pas fait dans votre vie?
J'ai jamais pu écrire une pièce de théâtre.
Vous avez essayé?
Non, mais je sais pas, il y a un blocage, j'y arrive pas.
Ah ben si on n'a pas essayé, on peut pas savoir qu'on ne dit pas, j'ai jamais pu.
Non, mais je suis face à ce challenge, il faudra que je le fasse un jour.
C'est vrai? Vous avez un thème?
Oh, j'en ai plusieurs.
Est-il vrai que quand vos enfants étaient petits, on parle d'invention, tous les soirs vous leur inventiez une histoire qui était, ça me fait penser à Groland, qui était l'histoire de Labroland, c'est vrai ou pas?
Ah oui, tout à fait.
C'était quoi Labroland? C'est le pays des labros?
Oui, c'est ça, c'était le pays des labros, donc je les mettais en scène dans mes histoires. Je mettais en scène les parents, ça les excitait beaucoup, ça les intéressait beaucoup. Alors maintenant j'ai des petits-enfants, Philippe Vandel. C'est-à-dire j'ai un petit enfant, Joseph, qui a 6 ans et demi, et un autre, Charlie, qui a 3 ans et demi, 4 ans. Et eux aussi réclament des histoires.
Ouais.
Mon problème avec Joseph, c'est qu'il me dit, Papiche, parce qu'il m'appelle Papiche, raconte-moi une histoire, mais je te donne le sujet.
Ah mais c'est bien,
oui,
figure imposée.
Sauf que les sujets que m'impose Joseph sont impossibles.
Ah
par
bon
exemple, l'autre jour, il me dit, voilà, c'est l'histoire d'une voiture qui est grosse quand on rentre dedans et petite quand on en sort. Et il faut que je construise une histoire à partir de cette absurdité. Alors je commence, il était une fois dans une famille, un monsieur qui aimait beaucoup conduire une voiture la nuit, enfin bref.
C'est vous qui avez écrit la chanson de Johnny Hallyday, Jésus-Christ est un hippie.
Oui.
Est-il vrai qu'à la base, c'était pas pour Johnny?
Ah jamais, non, non. Je l'ai écrit tout seul, ouais, dans un avion. Je suis arrivé à Paris, j'ai vu Eddie Vartan qui à l'époque venait de faire la musique de mon film Tout peut arriver.
Ouais.
Je lui ai dit, tiens, voilà un texte, ça pourrait faire une chanson, mais personne n'osera la chanter. Parce que quand même, Jésus-Christ est un hippie, il filme de la Marie-Jeanne.
Ouais.
C'était peut-être un peu iconoclaste à l'époque. Hein. Eddie me dit, mais si, si, Johnny va la chanter, je te fais une musique, Johnny la chantera. Voilà comment ça s'est passé. Il a fait la musique,
ouais,
il a proposé à Johnny, qui a dit, bah oui, on va faire ça, très bien. Ils se sont mis, la maison de disques allait proposer, à l'époque, on venait proposer des disques aux programmateurs dans les radios, qui étaient des espèces de...
Les dieux vivants.
Les dieux vivants, qui disaient, c'est bon ou c'est pas bon. Donc les programmateurs reçoivent ça, ils l'écoutent, ils le proposent au grand patron de l'époque, Jean Farran, pour qui j'ai estime et admiration et affection, mais Jean, à l'époque, dit, non, non, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre public, on ne peut pas se permettre de passer une chanson pareille. De l'autre côté de la rue, Europe numéro 1, il y a un petit génie qui s'appelle Lucien Maurice, les cheveux tout frisés, le mari de Dalida, qui dit « Ah bon, RTL ne le passe pas, je le passe 4 fois par jour. » Et donc il passe Jésus-Christ, est un hippie 4 fois par jour, et c'est un tube incroyable et un scandale.
Dans votre premier film « Tout peut arriver », Philippe Labro, il y avait Catherine Deneuve. Est-il vrai qu'elle a tourné pour vous gratuitement?
Absolument.
Comment on fait pour voir Catherine Deneuve gratos?
Ben, on est amis, et à l'époque... Ah ben,
alors comment on fait pour être ami avec Catherine Deneuve?
Simplement, on est amis, je connaissais très bien sa sœur Françoise d'Orléac. Quand Françoise est morte, ça m'a rapproché de Catherine, on s'est beaucoup vus. Je lui dis, je tourne mon premier film. C'est l'histoire d'un journaliste qui se balade un peu en France et qui interviewe les gens. Et j'aimerais bien un petit entretien avec toi. Je lui dis, bien sûr, comme ça.
Est-il vrai, Philippe Labro, que c'est vous qui avez découvert Fabrice Luchini?
Exact.
C'était où?
C'était dans un drugstore à Angoulême. Il était là pour faire les bigoudis de ses dames pour la grande soirée d'ouverture du drugstore.
Il était coiffeur?
Oui, il avait les cheveux très longs, il avait un petit air un peu androgyne comme ça, il était en train de danser dans un coin d'un bar, devant des provinciales et Bobby. Je m'approche de lui, je lui dis, mais qui es-tu? Je me permets de le tutoyer, il est tout gamin. Il me dit, je m'appelle Sobrifa. Sobrifa, oui. C'était le premier mec qui me parlait en verlan. Je lui dis, très bien Fabrice, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour les bigoudis de dames. Je lui dis, viens prendre un verre. On s'assied au bar, il me regarde, il regarde mes chaussures, il dit, ah, Weston, oui, ciré en dessous comme Vittorio De Sica. J'en reviens pas, garçon coiffeur de 16 ans, qui sait que le grand metteur en scène, acteur Vittorio De Sica, cirait ses chaussures aussi en dessous. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai affaire à un phénomène. Je lui ai dit, tu viens dans mon film. Il est venu dans mon film.
Merci beaucoup,
mais vous
Philippe Labro.
Je vous en prie.